mais ça fait partie des gens qui partaient pas du postulat de ces enfants ont loupé quelque chose. Plutôt de ces enfants ont quelque chose à nous apporter et ont quelque chose à s'apporter à eux-mêmes. Et je crois que c'est ça, en fait, je crois que la vocation de ce genre de métier, c'est d'abord de croire dans la résilience du patient et dans sa capacité à agir.
Bonjour et bienvenue à toi. Une fois par mois, je te propose de boire un verre avec une créatrice ou un créateur de liens inspirants. Je m'appelle Anne-Paul, je suis coach professionnelle, animatrice et formatrice. Je travaille pour les secteurs du social et de la solidarité sur les thématiques d'accompagnement, de connaissance de soi, d'engagement et de pouvoir d'agir. Après avoir travaillé pendant 8 ans auprès des personnes à la rue à Paris, j'ai décidé de me former pour accompagner les professionnels et les bénévoles de ces secteurs. Ces personnes donnent tout, voire plus au service des autres, et je crée des outils pour les soutenir dans leur mission. Maintenant que j'ai différemment la tête dans le guidon, je prends le temps de réfléchir à 4 sujets qui me passionnent. L'être humain, la relation et les liens, l'engagement et la solidarité. Alors j'ai décidé de partager mes découvertes avec celles et ceux qui mettent la création de liens au cœur de leur vie. On va vérifier ensemble si, comme je le sens depuis toujours, la relation est vivante. Dans cette deuxième partie avec Guillaume, on va parler de relations avec des professionnels et des soignants qui font grandir ou de mots qui cassent. D'une maman attentive qui pousse et qui veille, du CNCPH, de l'impact du confinement et de l'arrêt des soins, d'accessibilité. Il n'y a pas de faux-semblant. Il y a des mots qui sont clairement posés pour dire des réalités, des anecdotes, de comment Guillaume vit avec son handicap. Des mots posés qui invite au changement de regard, à oser la relation et à agir. Allez, on est reparti, Guillaume.
Ah, j'avais une question tout à l'heure. Quand tu t'es présenté, enfin, quand tu as parlé de ton parcours de vie, tu as évoqué la vie en institution, mais quand tu étais plus jeune. Et t'as dit que t'en pensais long sur ce, et que ça n'avait pas été une expérience si évidente que ça, mais malgré tout que t'avais rencontré des personnes qui t'avaient, enfin, dont t'avais des bons souvenirs.
Qui m'ont permis, j'irai plus loin. J'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de grandir.
Oui.
Mais moi, aujourd'hui. Moi, j'en garde pas du tout un mauvais souvenir. Je suis pas du tout rancunier. Vraiment pas.
On garde pas un mauvais souvenir.
Mais par contre, il faut que les choses évoluent, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il faut que les choses évoluent. Il faut que la loi de 2002 soit respectée.
Peux-tu nous parler de personnes dont tu te souviens? Et qui ont fait la différence, dont tu te souviens en bien. Et
ah, alors,
il y en a pourquoi beaucoup. Elles ont fait la différence?
Alors, il y en a beaucoup, en fait.
D'accord.
Il y en a beaucoup, et des personnes de très grande richesse. D'abord par leur richesse humaine, par leur écoute, par leur capacité à croire aux personnes accueillies, résidents, je ne sais pas comment... On doit appeler ça, ça dépend des lieux, mais aux personnes vivant sur place, on va dire, y compris des gens avec qui j'ai encore lien aujourd'hui.
D'accord.
Avec une toute petite partie, mais avec une partie de ces personnes.
Et est-ce qu'il y a, hein, y a quelqu'un en particulier qui
bah alors,
a envie de parler?
Qui me vient l'idée là, comme ça? Parce que vous me prenez un peu au dépourvu, chère madame. Je vous parlerai volontiers de Clairette Charrière, ergothérapeute, que j'ai rencontrée pour la première fois à l'âge de 6 ans, dans un établissement, dans un service hospitalier qui était le service du Kremlin-Bicêtre, qui accueillait des enfants infirmes moteurs cérébraux ou paralysés cérébraux. Ceci étant strictement la même chose. Qui est une jeune, qui est une femme, qui a tout de suite cru en nous, en moi et en d'autres, c'est pour ça que. Et qui nous a permis de prendre confiance en nous très facilement et très rapidement.
Et son métier, c'était le métier d'ergothérapeute. Qu'est-ce qu'elle faisait pour vous?
Alors, les ergothérapeutes, c'est un peu des bricoleurs de génie, des gens qui trouvent des solutions là où il n'y en a pas. Des gens qui nous apprennent à gérer qui un logiciel de reconnaissance vocale, qui un fauteuil roulant électrique, qui nous apprennent à enfiler un pull au bon dans le bon sens. C'est un métier génial.
Et qu'est-ce qu'elle avait de si particulier, cette femme, alors, dans son...
Mais ça fait partie des gens qui partaient pas du postulat de ces enfants ont loupé quelque chose. Plutôt de ces enfants ont quelque chose à nous apporter et ont quelque chose à s'apporter à eux-mêmes. Et je crois que c'est ça, en fait, je crois que la vocation de ce genre de métier, c'est d'abord de croire dans la résilience du patient et dans sa capacité à dans sa capacité à agir.
Oui. Et justement, à l'inverse, du coup, peut-être que si tu parlais de personnes qui n'ont pas fait la différence, justement, ou dont tu te souviens en mauvais souvenir, est-ce que c'est ça qui les caractérisait, le fait
Alors,
que
dans mon parcours, il y en a eu quand même un certain nombre dont je me souviens en mauvais souvenir, puisque comme j'ai eu dans mon parcours, j'ai fait j'ai et un handicap moteur lourd et un handicap visuel qui est toujours lourd, mais qui était à l'époque très très lourd. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, tu ne seras capable de rien.
Tu veux dire
Des professionnels.
des professionnels, donc des soignants, des éducateurs,
C'est ça. Il n'y a
d'accord.
pas le nombre d'éducateurs, de soignants, de directrices d'école qui m'ont dit, mais en fait, tu es bon pour le foyer occupationnel. Et à ces gens-là, il n'y avait rien de plus blessant pour moi que ça, quoi.
Bah oui, bien sûr.
Bien que pour certaines personnes, ça soit très utile. Plus ça peut permettre, pour certaines personnes qui n'ont pas forcément les capacités cognitives et intellectuelles, d'avoir un lieu refuge,
Oui.
de prise en soin, avec des activités, des amis, des relations. Voilà. Il ne s'agit pas de dénigrer ce genre d'institution.
Oui.
Et là, c'est parce que tu me poses la question à moi.
J'ai remarqué que quand tu aimes bien quelqu'un, quand quelqu'un t'a marqué, et notamment j'ai remarqué quand c'était quelqu'un qui t'a marqué humainement, t'as tendance à utiliser le mot génial. Il est génial, elle est géniale. Et qu'est-ce qu'il y a pour toi derrière ce mot quand tu désignes des personnes? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
C'est la psychanalyse, madame.
Non, pas du tout.
Donc, non, pour moi, le mot génial, c'est une marque et un signe de confiance. C'est quelqu'un à qui je suis capable de donner ma confiance parce qu'il m'a offert la sienne avant.
D'accord.
y a tellement dans mon parcours de personnes qui m'ont cassé. Alors, il y en a vraiment eu beaucoup, des gens qui m'ont fait confiance et qui ont été génial, pour le coup, vraiment génial. Mais il y en a aussi énormément qui m'ont cassé. Moi, je me souviens, à l'époque, alors tu veux du très concret, je vais t'en donner. À l'époque, les personnes en situation de handicap avaient besoin d'une autorisation de travail. Un truc un peu absurde, et qui est passé avec la loi de 2005.
D'accord.
Mais à l'époque, on avait droit à ça. Et donc, je suis convoqué par un psychiatre de l'extérieur de l'établissement parce que je m'opposais à la décision de l'établissement qui voulait me refuser cette autorisation de travail.
Oui.
Enfin, je m'opposais. Mes parents s'y opposaient et je m'y opposais aussi, tu vois.
Oui, t'en avais besoin, en tout cas.
Oui. Je ne savais pas si j'allais travailler un jour, mais en tous les cas, j'en avais besoin.
Oui, c'est ça. D'accord.
Je sais très bien que je gagnerais jamais, que je travaillerais très peu pour gagner ma vie, sauf sur des missions très courtes, et voilà. Mais j'avais besoin de cette reconnaissance sociale et sociétale. Et le psychiatre dit, moi, je pense que les ZAD, c'est bien, ça sera bien pour vous. Ça s'appelait le CAT à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un ESAT. Il me dit, je pense que l'ESAT, ça sera bien pour vous. Et je me souviens de lui avoir répondu, monsieur, en France, il y a deux catégories de sous-salariat. Les prisonniers et les gens qui travaillent en ESAT. Je ne suis pas encore détenu. Donc je refuse votre affectation. Et là, il me dit, mais je ne savais pas que vous aviez cette capacité de répondre. Bah, si vous écoutez un minimum des gens, vous le saurez.
Boum.
Ça m'a... Si tu veux, voilà, dans les... Et pareil, la directrice d'école... d'école de Saint-Jean-de-Dieu qui me vire le 30 qui me vire à deux jours de mes 16 ans. C'est-à-dire que j'ai eu 16 ans et deux jours, elle m'a viré.
Pourquoi elle t'a viré?
Bah parce que j'étais pas capable pour elle d'aller à l'école.
Ah. D'accord. Oui, en effet, ça c'est
violent.
Ouais. Alors que tu avais fait toute ta scolarité là.
Oui, alors qu'elle me connaissait bien. Quand le médecin de rééducation qui suit depuis 15, puis 10 ans te dit ah non, mais vous, tu racontes des histoires et que 6 mois après, tu vas chez l'ophtalmo. Et que l'ophtalmo se dit, mais en fait, vous êtes à moins de 2 dixièmes de vision et vous êtes non-voyant. J'ai encore dans mes notes le courrier qu'elle lui adresse à ce moment-là. En lui disant, ma chère consoeur, la seule chose que je peux regretter, c'est que vous ne m'ayez pas adressé ce jeune homme profondément intelligent il y a 2 ans. Moi, heureusement que j'ai eu des parents qui m'ont soutenu. Des amis qui m'ont soutenu, des parents qui m'ont soutenu surtout. Très fort.
C'est une question d'ailleurs que je voulais te poser. Parce que la semaine dernière, tu disais que le handicap, enfin ton handicap, est pourtant un vecteur de lien social. Et puis, je me suis dit, il y a... Tout le monde ne peut pas dire ça, ou toutes les personnes qui sont en situation de handicap ne peuvent pas ou ne doivent pas le dire, parce que ça ne doit pas exister pour tout le monde.
Et je me suis demandé justement pour toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qu'est-ce qui se passe pour toi pour que tu y puisses cette force-là. Est-ce qu'il y a une réponse justement dans ton entourage, dans ta famille qui a un peu
Alors, plein,
de soutien?
plein, plein. Déjà, j'ai une famille qui m'a fait confiance, qui m'a toujours raconté l'histoire de ma naissance, qui m'a fait prendre part à la décision de telle chirurgie, telle médecine, tel truc, tel machin, qui, quand il y avait une exposition au musée, m'emmenait au musée, qui, quand on allait en voyage, m'emmenait en voyage, qui... Mais une des anecdotes les plus marquantes pour ça, c'est je râlais un jour auprès de ma mère de devoir me lever à 5 heures du matin alors que mes sœurs se levaient à 7 heures pour aller à l'école. Moi, déjà, je devais être interne alors qu'elles devaient rentrer tous les soirs à la maison. Bon. Mais si en plus d'être interne, je devais me lever à 5 heures le lundi matin, c'était long, quoi. Donc, ce que j'ai compris, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tu ne te lèves pas à 5 heures, je te mets dans le train de 7 heures. Donc, tu gagnes 1 heure et demie de sommeil, je te lève vers 6 heures, 6 heures et demie pour... Maman s'est fait insulter à l'époque par l'école parce qu'elle me faisait prendre le train.
Parce que le train, c'était trop quoi? C'était pas un lieu adapté pour une personne.
C'était pas un lieu adapté pour une personne comme nous.
Alors que toi, c'était pas un souci pour toi.
Non, pour moi, c'était absolument pas un souci. C'est un vecteur de lien social.
Oui. Encore une fois,
Moi,
oui.
j'avais pas besoin. Je voyais pas où était le problème. Oui, mais il va se faire agresser. Oui, vos enfants qui ont 17 ans, vous les laissez bien rentrer. Maman leur avait répondu avec raison. Vos enfants qui ont 17 ans, vous les laissez bien rentrer chez eux tout seuls. Vous n'allez pas les chercher au collège et vous ne leur envoyez pas un taxi.
Oui. Et en effet, ça, c'est très porteur. On peut comprendre que ça a été porteur pour soi.
Oui.
Clairement.
Alors, j'ai appris longtemps après qu'en fait, elle le faisait, elle, pour moi. J'allais dire la mort dans l'âme et le stress parce qu'elle s'était fait engueuler par l'école et tout ça et tout ça, et qu'en fait elle le faisait parce qu'elle avait une cliente à elle à bord du même train à qui elle avait demandé de veiller sur moi. Mais tout ça semble le dire, bien évidemment.
Oui, mais ça le fait, oui. Il y avait des garde-fous, mais ça, c'est normal. Enfin,
Et...
oui, c'est vraiment normal. Ce qu'on retient de cette histoire, c'est le fait que elle était juste derrière toi pour te pousser
C'est ça.
à te dépasser, à aller plus loin,
C'est
à
ça.
vivre la vie comme tu pouvais la vivre. Elle avait
C'est
confiance
ça.
justement en toi. Oui, ça c'est clair. D'accord.
Et quand je lui ai dit... Que j'allais prendre des responsabilités à Start et que elle m'a dit bah vas-y. Je lui dis mais maman, je sais pas faire ça moi. Mais on s'en fout. Tu vas apprendre. Quand je lui ai dit l'année dernière que j'étais pas capable de prendre des études à la fac, elle m'a dit t'es pas capable, t'es sûr? Ben je sais pas. Ah, tu vois, t'es sorti majeur de promo. Pour quelqu'un qui est pas capable, ça va. Donc, clairement, ça, si j'avais pas eu ma main derrière.
Oui, cette confiance, c'est ce que tu dis en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Oui.
Les personnes qui ont marqué ton parcours positivement, donc là on parle de ta maman, mais c'est celles qui ont cru en ton pouvoir d'agir et on est
C'est ça.
clairement là-dedans.
C'est ça.
Et en fait, du coup, tu as envie de montrer que tu peux. Donc, bah,
Ben,
tu as envie et en fait, tu sais que tu peux, donc tu le fais quoi.
c'est
C'est.
ça.
Oui.
Et si jamais j'ai pu avoir le parcours que j'ai eu, c'est grâce à ça. Si tu veux, si quand je suis sorti de quand je suis sorti de Saint-Jean-de-Dieu, ma mère m'a jamais dit, tu vas rester à la maison, hein, tu vas rester tranquille. Hein. Elle m'avait trouvé une formation d'informatique au Greta où j'ai strictement rien compris. Parce que les gars travaillaient sur des trucs qui m'intéressaient absolument pas. Il fallait que j'aille tous les 2 jours ou tous les 2 jours en cours. Et si je voulais pas y aller, je me faisais engueuler terrible. En fait, je crois que ce qui fait la différence, c'est des parents qui ne pensent pas. Enfin, mes parents, moi, mais d'autres aussi. Hein. Moi, je ne suis pas le seul, loin d'être le seul. Ont cru en nous comme d'autres, enfin, comme les parents croient en leurs enfants. Handicapé, pas handicapé. Handicapé, oui. Mais on va faire quelque chose de vous. Ça me c'est pas un problème que vous soyez handicapé, mes enfants.
Sur le CNCPH,
Oui.
qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu y fais, toi?
Alors, qu'est-ce que c'est? T'as une autre interview?
T'as 2 heures.
C'est ça, t'as 2 heures? Qu'est-ce que c'est? C'est le Conseil national consultatif des personnes handicapées. C'est un organe politique, clairement,
D'accord.
qui a vocation à prendre des décisions concernant le handicap
D'accord.
en France, ou au moins à émettre des avis sur tout ce qui est législatif et autres.
OK. Ça existe depuis longtemps?
Depuis 75.
Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu y fais?
Moi, j'en suis membre depuis cette année, depuis
D'accord.
un an. Et qu'est-ce que j'y sais? Très objectivement, je participe à la commission santé et je participe et je donne du temps en réunion plénière.
Du temps en réunion plénière.
On a une réunion plénière par mois.
D'accord.
Et donc voilà ce que j'y fais.
D'accord. Et donc tu participes
À l'élaboration
des recommandations.
des recommandations et des futurs projets de loi.
D'accord. Je trouve que c'est intéressant, tu le fais.
C'est passionnant.
Qu'est-ce qui te motive à y aller? Qu'est-ce qui t'a donné envie de
Alors, ce qui m'a donné
participer?
envie d'y aller, j'y suis allé un peu par hasard. J'ai candidaté en me disant je serai jamais pris.
Et au final, tu as été pris.
Et au final, j'ai été pris. Qu'est-ce qui me motive à y aller? L'envie de m'engager pour faire avancer, je vais le dire basiquement, mais le handicap ou la notion du pouvoir d'agir de la personne handicapée dans la société.
J'ai encore une dernière question.
Non mais arrête avec tes dernières questions. J'ai encore une question, ça suffit, tu t'économises de la salive.
Question c'est, il y a un an pile poil, on était confinés. Ça a eu quoi comme impact pour toi, le Covid, la Covid?
La Covid, comme dit l'Académie. Alors, d'abord, un trait positif. C'est que, au moins au début, et ça doit encore avoir lieu aujourd'hui, seulement en région parisienne, on le voit moins, parce que... Mais surtout, les musées, les expos, tout était ouvert au public. par Internet, gratos. Donc, tu pouvais aller à Londres, à New York, machin, en restant devant ton PC. Donc, tu n'avais plus de barrière d'accessibilité. Donc, bah, ça, c'était cool, quoi. Et en impact plus négatif, pour le coup, pendant le premier confinement, il y a eu un arrêt des soins total. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de toxine botulique, comme tous les 3 mois. Et c'est tombé à ce moment-là, et l'hôpital a refusé la toxine botulique sous prétexte que c'était pas urgent. Après, j'ai trouvé d'autres gens qui ont considéré que c'était urgent, mais j'ai perdu 2 mois et demi ou 3 mois.
Oui, donc autant de temps de souffrance, de souffrance quoi.
Subi. Donc, double effet. Un cool, un pas cool, quoi.
Oui. Un autre effet cool, c'est que ton coloc a débarqué chez toi.
Complètement. Mais je pense qu'il aurait débarqué, mais voilà.
Ah oui, ça a accéléré.
Ça a
D'accord.
accéléré.
Il y a plein de choses à dire sur les gens, sur la relation, sur le handicap, sur...
Oui, mais j'espère, tu vois, j'espère que dans mon podcast, les gens verront un peu plus loin que le handicap.
Ah bah clairement, Guillaume.
Oui, toi et moi, on se dit clairement, mais j'espère que les gens, tu vois,
Alors, moi je pense que oui.
j'espère que les gens comprendront que le handicap, en réalité, est un prétexte à la relation pour moi. Il n'est pas un prétexte à ma vie, il me fait chier toute la journée. Mais il est un prétexte à la relation. Clairement.
Oui, je pense qu'ils verront ça.
Et c'est ça que je veux qu'ils voient, en fait. Et c'est ça que je veux qu'on arrive à déconstruire, en fait. Le handicap n'enferme pas. Mais bon, voilà.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est pas le handicap qui enferme, en fait. C'est le monde, enfin, c'est le regard qui est posé sur le handicap qui enferme.
Même pas, c'est le regard que les personnes handicapées portent sur elles-mêmes.
Ah, tu penses? Ah ouais, je te trouve dur.
Non. Si on te dit toute la journée, t'es un con, t'es un con, t'es un con, tu finis par le croire.
Oui, mais donc le premier responsable, ce n'est pas la personne qui a un handicap, c'est le premier responsable, c'est la personne qui accueille ou qui regarde ce handicap. Non, tu crois pas?
Je sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est toujours facile d'aller chercher des responsabilités chez les autres.
Mais si on ne passe pas ton temps à dire t'es un incapable, tu te le dis pas toi-même, tu vois ce que je veux dire?
En fait, on regarde le handicap comme une moins-value. La société regarde le handicap comme une moins-value. Si on regardait ça comme une plus-value. Eh bien, on gagnerait tous. On gagnerait et la société et nous. Moi, ce que j'explique toujours, si tu le mets ou pas dans l'interview où tu fais comme tu veux, c'est que les rampes d'accès dans les églises, c'est pratique pour les personnes handicapées, pour les poussettes et pour les pompes funèbres. Hein. Parce que depuis, ils ont acheté des chariots. Hein. Les mecs, ils se pètent quand même moins le dos. Hein. Mais c'est très bien. C'est très bien. Mais l'accessibilité, par exemple, c'est un truc qui doit servir à tous.
Oui.
Pas que, à la personne en fauteuil.
Oui, ah oui, c'est ça.
Parce
D'accord.
que si tu expliques que ça sert qu'à la personne en fauteuil, on te dit que ça coûte cher. Si tu commences à expliquer que bah, monter la marche pour la madame de 80 ans qui vient tous les. Qui habite au deuxième étage et puis qui. Voilà, qui galère. Il galère. Si tu lui expliques que bah, si on met un ascenseur, ça va servir et à la madame de 80 ans et au monsieur de 40 qui en a marre de porter ses packs de flotte jusqu'au troisième étage, s'il est fou dans l'ascenseur, c'est l'ascenseur qui va les porter jusqu'au troisième étage. Mon Dieu, tout le monde sera content. Hein. Et la madame et l'ascenseur et tout le monde. Tu vois?
Mais je vois.
Et on dit, mais c'est pour les handicapés. Non! Non, tu fais une rampe en béton, tu as plus de personnes non handicapées que de personnes handicapées qui vont la prendre. Parce que qui, la madame avec son caddie, qui, toi, avec ta poussette et toi, trois enfants en bas âge, tu vas te casser les pieds à descendre les marches? T'as une rampe en béton, tu vas descendre la rampe en béton.
Oui, clairement.
Et pourtant, la rampe en béton, elle a été faite parce qu'il y a un handicapé dans l'immeuble. Qui l'a vraiment fait chier parce que non, on ne voulait pas la faire. Ça coûtait 1500 euros à la copro. Et on est 45 ou 50 logements. Non, mais.
Ouais, c'est clair, t'as raison. En effet, on a tous à y gagner.
Le meilleur exemple pour ça, c'est celui qu'on utilisait dans Citoyens en marche, c'est la télécommande de télé. Je ne sais pas si tu as la télé.
Non.
Tu sais comment ça marche.
Oui, j'ai déjà utilisé une télécommande.
Tu as déjà utilisé une télécommande?
Et je me souviens même comment c'était quand on n'avait pas de télécommande.
Et bien, la télécommande de télé, ça a été inventé. Par un paraplégique qui, dans son lit, ne pouvait pas changer la chaîne de la télé.
Ah yes.
Aujourd'hui, tu poses la question de est-ce que la télécommande, ça a été inventé pour le handicap? Il y a 99% des gens qui disent non. C'est un truc qui marche
Oui.
dans le bien commun.
C'est extraordinaire.
Non, mais c'est vrai, hein, c'est un exemple.
Ah ben oui, je ne savais pas ça, moi. Donc c'est un exemple éloquent.
Mais ouais, mais c'est tout comme ça en fait. Je suis désormais inscrit à votre newsletter.
Merci. Et avant qu'on se quitte, Guillaume, j'ai une dernière question. C'est quoi pour toi oser la relation?
Oser la vie.
Bim.
Sans relation, il n'y a pas de vie, et sans vie, il n'y a pas de relation.
Ok, ce sera ton dernier mot.
Rien de Paul.
Génial. Merci beaucoup, Guillaume. Si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à rebondir et à m'envoyer un petit message. Je suis intéressée de savoir ce qui t'a parlé et interpellé. Tu peux m'écrire à annepaul@osonslarelation.com. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Si tu veux en savoir plus sur Osons la Relation, tu peux t'inscrire sur le site www.osonslarelation.com. Tu recevras deux fois par mois une invitation à faire une pause et à t'inspirer. Enfin, partage à qui tu le souhaites ce podcast. Comme tu le sais si bien, plus on est de fous, plus on rit. Et plus on est de créateurs, plus il y a de liens. En attendant de boire un nouveau verre ensemble avec un nouveau créateur de liens, je te donne rendez-vous le 5 dans ta boîte mail pour faire une pause café et découvrir une nouvelle inspiration. À très bientôt!